Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage, vous le savez, c'est un rendez-vous avec lequel vous pouvez évoquer avec nous des questions d'actualité et vous renseigner sur des sujets, des enjeux qui nous tiennent à cœur, en particulier ici même à l'Académie. Il s'agit notamment, bien sûr, de la langue française. La langue française pour laquelle nous nous dépensons beaucoup et pour laquelle nous sommes toujours vigilants. Alors, il y a une actualité qui nous invite justement à revenir sur une question que le plus grand public, d'une manière générale, ignore. C'est la question qui se joue en ce moment à Londres. Il y a le protocole de Londres, le fameux protocole de Londres, duquel nous allons parler avec notre invité Albert Salon. Bonjour Albert Salon.
Bonjour et merci de m'accueillir à votre antenne. Je suis heureux de saluer aussi vos auditrices et auditeurs.
Vous êtes ancien ambassadeur, en particulier en Jamaïque. Vous êtes président d'Avenir de la langue française et président du Forum francophone international. Alors le protocole de Londres, ça sera un peu notre point d'entrée sur un sujet capital qui est toujours la présence au monde du français, en particulier dans les domaines scientifiques, puisque là, ça concerne les brevets. Est-ce que l'on peut dire, résumer en quelques phrases, à quel besoin correspond le protocole de Londres, qui se négocie en ce moment, et qui remet en cause un certain nombre de choses?
Alors écoutez, d'abord, il est négocié déjà, le protocole de Londres. Il date de l'an 2000.
Et cette semaine, il y avait une actualité.
Vous savez, oui, certes, nous allons y venir. Et comment? Il y a eu hier le débat à l'Assemblée nationale et il y a au Sénat, et j'espère que cette émission va passer avant, il y a au Sénat le 10 octobre le débat des sénateurs sur ce même thème. Mais revenons à votre question.
Alors, vous m'obligez à préciser que cette émission a été enregistrée le 27 septembre.
Alors, le protocole de Londres a été négocié et signé, y compris par le gouvernement français, en l'an 2000. Qu'est-ce que c'est? Les brevets européens ne sont pas traités par Bruxelles en tant qu'Union européenne, sont traités sur la base d'un accord qui date de 1972 et qui s'appelle l'accord de Munich. Bon, c'est un petit détail simplement. Voilà. Et cet accord de Munich sur les brevets dispose que ceux-ci doivent être déposés dans trois langues et traduits dans les langues des pays pour lesquels on prend une protection. Sont déposés dans trois langues, traduits systématiquement, naturellement, dans ces trois langues d'abord, et puis éventuellement dans le pays dans lequel le brevet doit être en vigueur, c'est-à-dire traduit en espagnol pour l'Espagne, en Italie pour l'italien, etc. Voilà, hein ? Très bien. Le protocole de Londres voulait modifier ça. Pourquoi ? Parce que un bon nombre d'entreprises, essentiellement de grandes entreprises, et notamment pharmaceutiques, qui déposent beaucoup de brevets, entreprises d'ailleurs non seulement françaises ou allemandes, les Allemands déposent beaucoup plus de brevets, entre parenthèses, que les Français, mais les Américains, tous les étrangers, tous les gens qui déposent des brevets dans le monde et qui le font essentiellement en anglais, font une masse de dépôts. Bien. Ces entreprises-là trouvent que, passant par l'accord de Londres pour avoir leurs inventions protégées en Europe, ça leur coûte énormément cher de faire toutes les traductions. Ce qui est d'ailleurs une fausse idée, ce qui coûte beaucoup plus cher dans les brevets, c'est les taxes que l'on met dessus et puis les frais de procédure, etc., tout ce que vous voudrez.
Donc, argument spécieux, la traduction, les frais de traduction.
L'argument n'est pas tout à fait spécieux, mais il a été beaucoup gonflé, alors que le coût de traduction tel qu'il était jusqu'après, tel qu'il est toujours, puisqu'il n'a pas encore été ratifié, c'est à peu près 10 à 15%, alors que les gens vous disent dans la presse ou vous font volontiers circuler l'idée que c'est plutôt de 30 à 40%. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Tous les experts, les vrais experts vous le diront, et l'Office européen des brevets à Munich, parce que l'Office est à Munich.
Précisément.
Là où l'accord avait été, de base, avait été signé en 1972, vous le diront. Vous le reconnaissent. Très bien. Bon. Mais voilà. Il y a une pression très très forte pour que cette ratification de l'accord de Londres qui réduit considérablement la traduction soit accomplie. Alors, réduire la traduction, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que dans le protocole de Londres, on continuerait à traduire le dispositif, c'est-à-dire ce que l'on appelle, enfin, dans une loi, ça s'appellerait le dispositif, c'est-à-dire les revendications du brevet. Il y a deux parties dans un brevet, la revendication et la description. La revendication, c'est le résumé dont tous les termes juridiques sont soigneusement pesés. C'est la revendication qui est réellement créatrice de droit. C'est clair ? Et c'est généralement court, quelques pages, la revendication. Mais il y a à côté toute une description qui peut parfois faire tout un livre de la nouvelle invention. Mais en moyenne, c'est plutôt 10, 15, 20, 30 pages, si vous voulez, à peu près de cet ordre de grandeur. Quand on décrit avec beaucoup de soin la situation antérieure et ce qu'apporte l'invention nouvelle. Bon, mais ça précise les termes de la revendication dont je vous parlais tout à l'heure. Sans description également traduite, on ne peut rien vraiment, on ne peut être sûr de rien quand on utilise la seule revendication. Ça veut dire qu'il faut se reporter généralement à la description pour bien comprendre. Mmh. Ça veut dire que pour bien comprendre, ben, il faut aussi la traduction de la description. Or, c'est cette traduction de la description que le protocole de Londres veut supprimer.
Alors, ça existe depuis 2000. À quoi
le
correspond...
Le protocole de Londres, mais attendez, il a été signé, mais il n'a pas été ratifié.
Voilà.
Et jusqu'à présent, dans les 7 années qui viennent de s'écouler, nos associations pour la défense du français et de la francophonie, on en reparlera tout à l'heure de ces associations, j'imagine, les gens qui sont des traducteurs spécialisés notamment dans les traductions scientifiques et techniques, de l'ingénierie, des brevets en quelque sorte, et puis les gens de la propriété intellectuelle, tous se sont mobilisés avec nos amis parlementaires, avec nos divers amis à l'Académie française, parce que l'Académie française a bien compris pour la plupart de ses membres de quoi il s'agissait. Les ministères, certains des ministères aussi étaient à nos côtés. Jusqu'à présent, nous avions réussi à repousser la ratification, parce que pour qu'un traité international soit en vigueur,
il faut qu'il soit
signé, mais il faut qu'il soit ratifié en bonne et due forme, c'est-à-dire normalement par le chef d'État, après approbation du Parlement, le cas échéant, un traité très important, par référendum. Mais là, il ne pouvait pas s'agir effectivement de référendum. Il s'agissait donc du Parlement. Il faut donc que, et c'est ce que le Parlement français est en train de faire en ce moment. Voilà l'actualité de la chose.
Alors, depuis 2000, est-ce qu'on a pu observer déjà des évolutions en la matière ? Tous les brevets qui sont déposés depuis 2000, pour l'instant, rien n'a changé.
Ah ben, rien n'a changé. C'est toujours l'ancienne procédure, puisque, encore une fois, le protocole de Londres, n'étant pas ratifié, ne peut pas encore s'appliquer.
Quelle sera la mécanique qui va s'appliquer d'office une fois que ce protocole, si jamais il est ratifié, une fois que ce protocole entrera en vigueur ? Est-ce que l'on va assister à la disparition pure et simple des traductions des brevets en français ?
Non, puisque les revendications, comme je vous l'ai dit, continueront à être traduites. Mais les descriptions ne le seront pas.
Oui, mais on voit, vous l'avez dit, qu'elles sont essentielles, les descriptions.
Mais elles sont essentielles. Alors, la mécanique, comme vous dites, aboutit à quoi ? Eh bien, c'est que théoriquement, on continuera, comme sur la base de l'accord de Munich de 1972, à pouvoir déposer des brevets en français, en anglais et en allemand. Mais il faut savoir que 7% seulement des brevets européens sont déposés en français, y compris par les Français eux-mêmes, qui déposent assez souvent en anglais. Alors, les 93% de brevets pourront être traduits en français, en anglais ou en allemand, s'ils sont dans l'une de ces trois langues, si vous voulez, mais n'auront plus besoin d'être traduits dans les autres langues, dans les pays dans lesquels ils sont censés s'appliquer. Ce qui veut dire que les 93% en France, en ce qui concerne la France, une des trois langues admises, seules les revendications sont traduites. Toutes les descriptions ne seront plus traduites, économie donc effectivement pas aussi importante que qu'on nous le dit dans la presse, mais économie tout de même pour les déposants, mais économie, finalement, les frais qui existent toujours sont mis à la charge de qui ? Des gens qui ont besoin de lire les descriptions, c'est-à-dire essentiellement, alors bien sûr toutes les entreprises, mais les grandes entreprises, elles ont des services de traduction, il n'y a pas de gros problème pour elles peuvent faire cela, mais les petites et moyennes entreprises, ceux qui souffrent le plus en la matière, en dehors du problème général et important de principe de la langue française, je parle là toujours sur le plan économique, ce sont les petites et moyennes entreprises françaises, comme d'autres d'ailleurs.
Qui vont souffrir au premier chef.
Qui vont souffrir au premier chef, parce que pour comprendre, elles sont obligées de faire traduire, elles.
Donc là, on touche du doigt une réalité assez peu décrite, somme toute, puisque Il y a un coût à tout cela quand on supprime quelque chose pour des raisons
bien
de facilité.
Sûr, il y a un coût. Il y a un transfert
ce sont d'autres
de
qui vont l'assumer. C'est un transfert de coût.
Alors ça veut dire que les grandes entreprises pharmaceutiques, etc., notamment alors les entreprises américaines et toutes les entreprises étrangères non européennes qui déposent en anglais, elles déposent très peu en français, hein, sauf d'entreprises québécoises parfois, etc. Bon, ça veut dire que ces entreprises-là ont une accentuation de leur puissance sur le continent européen, y compris en France, naturellement. Et une puissance qui, effectivement, aboutit par la force des choses, par la difficulté de faire traduire, etc., par une protection accentuée pour eux et diminuée pour les inventeurs français ou allemands, ou, etc.
Alors, Albert Salon, je cite par exemple Jacques Millard dans les pages du Figaro, qui nous dit, puisqu'on parle des coûts de traduction, que ce n'est pas un obstacle au dépôt des brevets, il représente 10% du coût global du brevet, dont près de 75% correspondent aux seules annuités de maintien en vigueur et 15% à la procédure à l'Office européen des brevets qui se trouve à Munich. Donc on a beaucoup exagéré, vous l'avez dit.
Et il faut ajouter
ces
taxes. Les taxes sont très importantes.
Alors sont des taxes nationales ou
sont des taxes nationales, oui.
Donc c'est l'État français qui prélève sur les brevets qui sont déposés à Munich. Comment ça se passe?
Oui, écoutez, je crois qu'elles sont en bonne partie reversées à l'Office européen des brevets pour qu'elles puissent fonctionner.
Alors, évidemment, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur cette question. Il y a un avis, notamment, j'ai toujours cette page du Figaro sous les yeux. Bernard Zimmern, qui préside l'Institut français pour la recherche aux administrations publiques, lui estime que, somme toute, l'objet du protocole est de réduire le coût du brevet européen. Et c'est tant mieux si on réduit les coûts.
Et alors, c'est une illusion de penser que l'on déposera plus de brevets en français. Je ne vous recommence pas l'explication générale que j'ai faite sur l'aspect économique des choses et sur le transfert, mais l'un des arguments employés par les partisans de la ratification du protocole de Londres, c'est au moins, comme cela, on déposera plus de brevets, et notamment plus de brevets en français. C'est complètement, comment dirais-je, aléatoire, c'est le moins que l'on puisse dire, cet argument. Le brevet restera très cher. Pourquoi est-ce que les gens, notamment en France, ne déposent pas autant de brevets qu'en Allemagne? Les Allemands déposent 27% des brevets européens. Nous en déposons 7%.
L'écart est énorme.
Bon. Entre parenthèses, d'ailleurs, ça veut dire aussi que l'allemand aura en France, si le brevet est déposé en allemand, aura force. Hein, ça rejoint l'argument linguistique
que
nous n'avons pas encore parlé vraiment.
Les trois langues sélectionnées, c'est anglais, français, allemand.
Oui, c'est ça. Bon, eh bien, ça veut dire que l'allemand aussi, comme l'anglais, aura force, en quelque sorte, pourra être mis en vigueur devant les tribunaux français, alors que la langue de la République seule est le français.
Donc là, on s'achemine vers des controverses juridiques.
Et absolument, et de grandes difficultés.
Comment résoudre des questions contradictoires?
Alors, mais revenons à la question que vous posiez. Ça n'implique pas que beaucoup plus de brevets seront posés, notamment par les Français. Pourquoi? Parce que contrairement aux Allemands, ça ne veut pas dire que nous inventons moins. Nous inventons peut-être un petit peu moins quand même que les Allemands, mais pas dans cette proportion de 27 et 7. Nous, nos Français, nos petites et moyennes entreprises essentiellement, ont beaucoup plus de réticence que les petites entreprises et moyennes entreprises allemandes. D'abord parce que leur taille allemande est plus grande en général. On le voit bien dans les résultats à l'exportation à l'heure actuelle. Les exportations allemandes sont portées en bonne partie par des petites et moyennes entreprises. Chez nous, c'est pas le cas. C'est moins, beaucoup moins le cas. Bon. Mais il y a une réticence plus profonde encore. C'est que il y a pas toujours une chez les petits et moyens entrepreneurs français, une confiance forte en la justice de leur pays. C'est-à-dire qu'ils se disent, la protection là, ils ont bien des exemples à citer, la protection est-elle toujours bien solide? Même si je dépose mon brevet là, je suis pas sûr d'être vraiment protégé en fait. Alors pourquoi engager tous ces coûts, toutes ces affaires? Voilà. Il y a cette réticence profonde là qui existe, dont on parle très peu d'ailleurs bien sûr.
Mais est-ce un raisonnement pertinent? Parce que si les Allemands déposent des brevets, c'est qu'ils sont sûrs d'être protégés. Alors pourquoi les Français n'auraient-ils pas confiance?
D'une part, ils ont des petites et moyennes entreprises plus puissantes, qui peuvent plus facilement payer, qui sont habitués à jouer ce jeu-là. Et l'accord de Munich, c'est à Munich que ça se passe. L'Allemagne est un peu au centre des choses, en Europe en tout cas. Et peut-être ont-ils plus confiance aussi en leur justice?
Mais là, c'est une question, somme toute, assez, je ne dis pas subjective, mais qui tient à quel type de fondement, si on peut dire. Est-ce qu'il y a des précédents qui dissuaderaient les entrepreneurs
de déposer
des brevets?
Les entreprises qui disent ça, eux, nous citent des précédents. Moi, je ne les ai pas là en tête, mais ce sont eux qui les citent.
Donc, ils préfèrent ne rien déposer.
Dans certains cas, oui, ils ont une réticence à déposer entre l'avantage espéré d'une protection sur la base du brevet et puis le coût engagé par le dépôt. Ils hésitent beaucoup. Et ce n'est pas la réduction de la traduction qui va sensiblement réduire le coût. Voilà, encore une fois, on revient là-dessus.
Oui, parce que l'entrepreneur français qui voudrait déposer un brevet, s'il veut que son brevet s'applique, par exemple, en Italie ou en Espagne, avant le protocole de Londres, il devait traduire automatiquement en italien, en espagnol.
Oui.
Bon. Maintenant, oui. Il peut laisser la langue anglaise.
Non, ce n'est pas l'entrepreneur français qui... C'était l'Office européen des brevets.
Oui, l'Office européen des brevets, mais je parle d'un...
C'est une différence.
Oui, oui. Bon. Ça devait automatiquement être traduit dans la langue donc, du pays. Maintenant, on peut estimer que ces coûts diminuant, ça représente quand même une petite incitation.
Une petite. Oui, une petite. Ah ben, honnêtement, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, puisque dès que vous diminuez un petit peu les coûts de quelque chose, il est certain que ça fait une petite incitation. Mais il faut bien voir qu'elle est petite.
Elle est petite. D'accord. Alors, Albert Salon, il y a des jugements, on pourra se reporter d'ailleurs, il y a des jugements assez techniques, il y a des appréciations assez techniques sur cette question des brevets. On pourra se reporter au comité de soutien contre le protocole de Londres, qui a d'ailleurs une adresse internet, et on peut s'apercevoir que beaucoup de personnalités ont signé. On peut y voir, alors outre vous-même, Jacques Attali, par exemple, Jean Amadou, le chansonnier, des académiciens, plusieurs académiciens.
Éric Orsenna,
notamment.
Plusieurs académiciens.
Ils sont à peu près 5 ou 6 à avoir signé.
Plusieurs immortels.
Oui. Citons également Jean Dutour,
mais oui.
Qui sont également conscients de l'enjeu qui se joue en ce moment. Il y a en particulier aussi Laurent Laforgue, le mathématicien. Médaille Fields, notre prix Nobel, l'équivalent du prix Nobel.
Exactement.
Max Gallo,
qui a écrit L'âme de la France, remarquable livre. Il faut que tout le monde lise ce livre pour bien comprendre la France. C'est L'âme de la France de Max Gallo.
Jean Raspail, Alain Rey, le linguiste. Voilà, donc ça fait quand même un certain nombre de personnalités qui se sont mobilisées. Est-ce que vous-même, vous percevez une mobilisation réelle autour de cette question ? Par tous les acteurs qui sont concernés.
Et par tous nos réseaux, nous y avons contribué à cette mobilisation. Encore une fois, à côté des gens de la protection industrielle, de la protection intellectuelle, pardon, et des traducteurs, des sociétés de traducteurs. Mais nous avons beaucoup agi, mobilisé tous nos réseaux, mobilisé tous nos amis parlementaires, etc. Vous avez vu que la presse a fait un large écho à ce débat. C'est en grande partie, effectivement, ces trois piliers-là qui ont suscité le débat, c'est bien évident. Nos associations y ont pris leur bonne part. Et les partis politiques, sur le plan des partis, il y a eu encore une hésitation. Les communistes, je ne mentionne pas l'extrême droite, qui effectivement est plutôt favorable à cela, mais le Parti communiste, même les Verts, ils ont voté d'ailleurs contre la ratification hier à l'Assemblée nationale. Les socialistes avaient annoncé, eux, qu'ils voteraient contre. Et puis finalement, après des débats, semble-t-il, houleux en leur sein, ils étaient divisés, ils ont décidé finalement de voter oui. Et ce que Jean-Marc Ayrault a annoncé, donc, juste avant le vote, avant-hier. Voilà, quant à l'UMP, l'UMP a eu quelques députés qui ont voté contre.
Mais dans l'ensemble, elle est plutôt favorable
au
protocole de Londres.
Oui.
Vous l'expliquez par une sorte d'atlantisme ambiant ou comment pouvez-vous l'expliquer ?
Écoutez, je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites, mais je crois que vous l'avez. Vous souriez.
Non, aussi. Mais parce que ça peut avoir, comment dirais-je, des origines géopolitiques. Oui.
Disons une chose, et nous arrivons tout de même en partie à l'essentiel, c'est que nous sommes, à l'heure actuelle, dans une situation où bon nombre de nos élites, de droite comme de gauche, je ne fais pas de politicaille ici, n'est-ce pas ? De droite comme de gauche, considèrent que continuer à défendre le français, promouvoir la francophonie, écoutez, décidément, c'est un peu ringard, c'est un peu dépassé tout ça. Il faut vraiment se mettre à la vraie modernité. Et la vraie modernité, c'est l'anglais, c'est l'Amérique, c'est l'américain. Et il faut se mettre derrière ce que je qualifie dans certains de mes livres d'empire.
Albert Salon, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants.
Les académiciens de l'Institut de France s'expriment au micro de Canal Académie. Retrouvez le témoignage de François Jacob de l'Académie française dans notre médiathèque en libre écoute et libre téléchargement. François Jacob évoque sa carrière de biologiste, prix Nobel de médecine, ainsi que son entrée à l'Académie française. Un témoignage exclusif sur Canal Académie.
Éclairage avec Albert Salon, ancien ambassadeur, président d'Avenir de la langue française et président du FFI, le Forum francophone international, pour évoquer en ce début d'entretien le protocole de Londres qui, alors vous l'avez rappelé, on en a rappelé un petit peu l'histoire, qui est apparu en 2000, qui s'est invité, si je puis dire, dans l'actualité francophone en 2000. Et depuis 7 ans, vous menez un combat acharné contre ce protocole pour que celui-ci ne s'applique pas et ne soit pas ratifié. Cette ratification, on évitera d'employer hier ou demain, avant-hier, c'est l'actualité aujourd'hui. Cette ratification fait l'objet, en tout cas, d'un débat parlementaire à l'Assemblée, puis au Sénat bientôt.
Alors, au moment où nous parlons, effectivement, voilà, dans 15 jours à peu près, ou dans 12 jours, il y aura le débat au Sénat.
Donc, si le Sénat vote pour...
Si le Sénat a voté pour la ratification alors que l'Assemblée a voté contre, eh bien, il y aura une navette, comme ça s'appliquera le règlement habituel en ce qui concerne le vote des assemblées.
Et l'Assemblée aura le dernier mot.
Et l'Assemblée aura le dernier mot, en fin de compte.
Alors, si l'Assemblée ratifie ce protocole de Londres, que se passe-t-il ?
Eh bien, le chef de l'État, ça paraît, si vous voulez, au journal officiel. L'accord, le traité entre en vigueur côté français. Et comme la France était le dernier pays important des 8 nécessaires, ou des 7 ou des 8, je ne sais plus brusquement, peu importe, hein, qui devait voter nécessairement pour que le protocole puisse entrer en vigueur, beaucoup ne l'ont pas signé, mais il y a 8 pays, ou 7, je ne sais plus, peu importe, hein, qui doivent le signer pour que le protocole entre en vigueur. La France était le dernier des 7, ou des 8. Alors, si elle ratifie, effectivement, le protocole entre en vigueur.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Si elle ne...
En Europe.
Donc, pour ceux qui nous écoutent, si la France ratifie, donc ce sera l'anglais, le français et l'allemand qui seront les 3 langues dans lesquelles un brevet devra être écrit.
Devra être déposé.
Déposé à l'Office européen des brevets à Munich.
Pourra, parce qu'il ne devra pas nécessairement, ce n'est pas une obligation.
C'est l'une des 3 langues.
C'est l'une des 3 langues admises au dépôt.
Donc facultatif, le français devient facultatif, parce qu'on imagine évidemment que c'est l'anglais qui va être choisi.
Naturellement, on passera de 7% de dépôt en français
à 0,00.
À 0 quelque chose, si effectivement ce jeu-là continue. Ce qui veut dire...
Il y a une hypocrisie à dire que vous avez le choix entre 3 langues.
Oui, bien sûr. Ce qui est grave, c'est que le français devient par cette... J'allais dire une petite porte. Non, c'est une grande porte. Une porte de la technicité, du langage technique, du langage scientifique, du langage de l'ingénierie, de la modernité, de l'invention, de l'innovation. Hein? Eh bien, le français devient une langue, elle ne va pas complètement disparaître, mais elle est mineure. Elle devient mineure et il faudra de plus en plus se référer à l'anglais, concrètement, un peu à l'allemand, mais à l'anglais, essentiellement pour avoir des références en matière de brevets. Et c'est très important, ça, c'est très grave. Et ça s'inscrit dans un mouvement, ne parlons pas en termes militaires, disons simplement un mouvement qui, à l'heure actuelle, se développe et qui nous inquiète beaucoup, nous, les associations, qui consiste à dire qu'au fond, encore une fois, le français, faut-il vraiment continuer à le défendre? Pourquoi ne pas passer tous à l'anglais? C'est tellement plus simple et nous serions, à côté de nos amis anglais, américains et autres anglophones, vraiment plus compétitifs. Passons à l'anglais tous et passons-y au besoin dès la maternelle. Alain Minc allait plus loin, il recommandait aux femmes enceintes de chanter des chansons en anglais dans leur bébé encore dans leur ventre, pour être sûr de les habituer, vous savez que ça se fait, au son de la langue anglaise. Comme ça, ils seraient plus préparés, si vous voulez, à l'admettre. Bon, très bien. Alors, ça, c'est une attitude générale. Et quelles illustrations en voyons-nous actuellement sur la place France? Eh bien, nous voyons les déclarations de M. Darcos, Xavier Darcos, ministre de l'Éducation, qui pourtant a été ministre chargé de la coopération et de la francophonie il n'y a pas très longtemps, sous un gouvernement qui était déjà un gouvernement largement UMP. Monsieur Darcos a dit « il faut bilinguiser vite la France ». Alors, il n'a pas dit français-anglais, mais enfin, tout le monde comprend bien ce qu'est de l'anglais qu'il s'agit. Bon, c'est assez clair, je pense, mais enfin, honnêtement...
Alors qu'à une certaine période, ça aurait pu être l'allemand.
Oui, il n'a pas dit... Oui, bien sûr, il n'a pas dit l'anglais. Alors, voilà. Et dès le plus jeune âge, il faut mettre des moyens massivement à disposition des écoles pour que, très petits, nos chères têtes blondes se mettent à l'anglais, et puis qu'il y ait plus en plus égalité entre le français et l'anglais, jusqu'à ce qu'un jour, le français disparaisse. Ça serait la troisième mutation de langue de notre histoire. troisième changement de notre histoire. La première, ça a été le passé du celtique au latin. Ça s'est fait en plusieurs siècles. Et puis, les Gaulois ont trouvé largement des avantages. Hein, la colonisation romaine, personne ne pleure dessus, ne pleure plus dessus, en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'ils ont pleuré à l'époque quand même. Mais voilà, c'était quand même un progrès. Deuxième mutation linguistique de notre histoire, c'était, depuis, au fond, la Révolution n'a fait qu'accentuer, hein. Mais surtout depuis la Révolution, c'est le passage des langues pour les trois quarts de la France, pas toute la France bien sûr, puisque le français type de l'Île-de-France ou de la Touraine ou des Pays de la Loire était déjà bien implanté depuis très longtemps, mais dans les trois quarts de la France, l'enquête de l'abbé Grégoire l'avait révélé en 1794, on parlait autre chose que le français de l'Île-de-France ou de l'Anjou ou de la Touraine. On parlait soit des langues différentes, soit des patois, soit des dialectes, hein, peu importe les nuances que l'on fait, mais autre chose que le français à la maison. En tout cas, même si on employait depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts le français devant les tribunaux. 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier. Bien. Alors, c'était la deuxième mutation linguistique pour une bonne partie de la France, pas pour toute la France, mais une bonne partie. Alors actuellement, on est engagé, ou des gens veulent nous engager, dans une troisième, en disant, après tout, passons à l'anglais, encore une fois. Alors, on a vu les déclarations de Darcos, on voit maintenant que dans les grandes entreprises dites mondialisées, en France, l'anglais est imposé comme langue de communication interne au cadre supérieur, puis au cadre moyen et de plus en plus aux techniciens.
Mais Renault est revenu sur cette disposition, paraît-il.
Ça a été cité, effectivement, et nous l'avons nous-mêmes cité. Là, vous avez repris, heureusement, la citation que nous avons faite nous-mêmes dans nos associations. Effectivement, c'est l'affaire de Renault et Nissan, dans l'alliance avec Nissan. Bon, je fais vite une parenthèse là. Une parenthèse importante, oui. Renault et Nissan s'étaient dit, on va prendre comme langue commune l'anglais. On met tout le monde à l'anglais, etc. Ils sont aperçus que, alors que par ailleurs, Carlos Rosen avait une attitude très intelligente en ce qui concerne Nissan, non pas d'imposer la culture Renault ou la culture de France, fabrication d'automobiles à la française, au Japon, mais à partir de la culture japonaise, en brandissant ce qu'il appelait précisément la culture samouraï. Et ça marchait. Simplement, pour l'anglais, il avait dit, pour simplifier les choses, il faut mettre l'anglais comme langue de communication entre tous, là, dans l'ensemble renondissant. C'était perçu que ça collait pas, et que ça collait pas avec sa propre conception de s'appuyer sur la culture samouraï, ou de s'appuyer sur la culture française, d'autre part. Alors, il est revenu dessus et a fait une fondation avec un bon nombre de bourses pour former les Japonais en français en France et les Français en japonais au Japon. Voilà. Ça veut dire qu'il a compris que quelque chose n'allait pas là-dedans.
Un exemple de dialogue des cultures.
Un exemple de dialogue des cultures et d'utilisation
intelligente. Donc l'économie n'est pas l'ennemi du dialogue des cultures.
De la capacité d'invention et la capacité d'initiative des gens.
Vous dites Carlos Rosen et pas Ghosn, c'est...
Carlos Ghosn, si vous voulez, mais enfin bon...
Mais il y a peut-être une prononciation orthodoxe.
Parce que le GH, il est libanais d'origine, c'est un mot arabe. Rosen, ça veut dire le fort.
Le fort, alors que la plupart des médias disent Ghosn comme en anglais,
d'ailleurs. Oui, bravo, d'accord, pourquoi pas.
On pourrait ironiser, hein, Carlos is Ghosn, ce serait de mauvaise aloi, peut-être.
Alors, cette affaire. Alors, non seulement dans les grandes entreprises, c'est comme ça, on verra qu'il y a eu une réaction avec les syndicats. Et ça, c'est très important. Si j'oublie de le dire, vous me posez la question, s'il vous plaît.
Non, parce que les syndicats, justement, sont très impliqués.
Et les syndicats se sont impliqués, d'ailleurs, dans l'affaire des brevets. Ils sont mobilisés avec notre collectif, parce que, je le dis tout de suite, nous avons constitué à l'initiative des syndicats, alors que nous allions les voir depuis des années en leur disant « Aujourd'hui, on brade votre langue, demain, on brade vos emplois ». Ils étaient sceptiques. Ils sont revenus nous voir ensuite. Je dis « On veut un collectif avec vous, les associations ». Nous l'avons fait. Nous avons fait une conférence de presse, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, présidée par Jacques Méard, le 8 février dernier. Ça a eu un grand retentissement médiatique pour une fois. Effectivement, il y a les syndicats qui étaient derrière. Alors là, les journalistes tendent l'oreille. Et tous les syndicats étaient présents.
C'est une première que la jonction se fasse entre le monde de la défense de la langue française et le monde syndical.
Oui, absolument. Nous cherchions ça depuis des années, encore une fois, mais les syndicats sont aperçus qu'ils y avaient eux-mêmes intérêt. Et encore une fois, il y avait le pluralisme syndical, la CGT, la CFTC. Il faut rendre hommage ici à un monsieur qui s'appelle Jean-Loup Cuisinier, de la CFTC. Il a provoqué déjà des procès qui ont été gagnés, d'ailleurs, contre... Voilà, je passe le détail. Jean-Loup Cuisinier, CFTC, c'est lui qui est revenu nous voir.
Mais il a gagné contre sa propre entreprise.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Qui voulait lui imposer l'anglais.
Oui, absolument. Des logiciels en anglais, non traduits, on y revient. Bon, voilà. Alors, les syndicats augmentent leur pression là-dessus, avec nous les associations, et nous avons quelque espoir que grâce à cela, à cette conjonction, si vous voulez, nous pourrons obtenir des résultats. Bien. Logiciel non traduit, mais vous l'avez vu aussi récemment dans quoi, dans quel domaine? On ne l'a pas dit, la presse a été d'une discrétion sur cet aspect-là, alors que la même chose qui s'est produite en Allemagne a provoqué la réaction de la presse sur cet aspect. J'y viens. C'est quoi? C'est les logiciels d'utilisation des matériels de radio, des appareils de radio dans les hôpitaux. La radiologie. Et oui, on a vu que ça a causé des morts à Épinal.
Exactement, l'affaire
d'Épinal. 5 morts. Plus des tas de gens, des centaines de gens qui ont souffert de sur-irradiation.
Alors, il faut l'expliquer, parce que le personnel, en fait, n'était pas formé à l'anglais et n'a pas compris
les consignes. Alors, les journaux ont dit, je n'accuse pas les journaux, mais enfin, malheureusement, la seule chose qui est vraiment transpirée en tout cas dans les journaux, c'est le fait qu'il y a eu une insuffisante compétence du personnel dans la manipulation des appareils. C'est joliment dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que le logiciel était uniquement en anglais, les notices d'emploi et d'entretien étaient uniquement en anglais, ils n'ont pas compris. Le tout à l'anglais tue.
On se quitte quelques instants, on se retrouve dans quelques secondes pour continuer notre entretien à ce sujet. À tout de suite. Éclairage avec Albert Salon, je le rappelle, l'ancien ambassadeur, président d'Avenir de la langue française et du Forum francophone international. Albert Salon, on était sur l'affaire d'Épinal qui est quand même tout à fait symptomatique d'une évolution, donc des notices uniquement en anglais pour la radiologie, 5 morts,
des logiciels.
Le personnel ne comprend pas l'anglais. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que ce cas n'est certainement pas isolé,
et non.
Est-ce qu'on peut imaginer que des procédures peuvent être diligentées devant les tribunaux pour que ces logiciels soit traduit en français, enfin existe en français, que les notices soient traduites.
Eh bien, de même qu'il y a eu des procès avec...
Mais il faut changer toute la production industrielle.
Oui, il faut imposer aux gens qui produisent les logiciels une traduction, et une traduction de bonne qualité, non pas une traduction confiée à un étudiant comme ça à 20 sous, pas 20 sous, mais enfin, vous voyez, très peu d'euros la page. Hein, il faut confier ça à des traducteurs vraiment qualifiés. Je ne suis pas traducteur moi-même, donc je ne fais pas de corporatisme ici. Mais c'est une question très importante. C'est le principe de précaution lui-même en matière de santé. Il faut que les gens comprennent ce qui est écrit. Alors, il ne suffit pas de dire, bon, on a fait une traduction, là, tenez, voilà une traduction. Si la traduction est bâclée, si la traduction est faite par des incompétents qui ne comprennent pas les termes techniques ou qui ne comprennent pas même des termes moins techniques, eh bien, on a des catastrophes comme celle d'Épinal, comme celles qui se sont produites aussi dans d'autres hôpitaux. On en a moins parlé parce qu'il n'y a pas eu de mort. Et catastrophe qui s'est produite aussi en Allemagne. Je le dis, là, la presse allemande a dénoncé le fait que c'était uniquement en anglais.
Est-ce que...
L'Alcanard enchaîné l'a fait hier matin quand même. Pour une fois, ça y est, la presse commence à transpirer un peu plus. Mm-hmm. L'article du Canard enchaîné d'hier sur les chercheurs qui ne veulent pas être collabos, Q'AU et labo plus loin, mais vous voyez le jeu de mots, mm-hmm. hein, c'est pas mal comme titre, je trouve. Eh bien, l'affaire d'Épinal est dénoncée dedans aussi. À propos des brevets, d'ailleurs, hein, mais l'affaire d'Épinal est dénoncée dedans.
Mais tout se tient parce que
pour
cette histoire...
Tout se tient, mais oui.
Cette histoire des brevets, est-ce qu'on ne paye pas avec les brevets, et vous allez sans doute nous le dire, des décennies de, j'allais dire, un peu de laisser-aller en la matière, puisqu'on a accepté quand même que toute la production électronique se fasse en anglais, mais ça fait des années que la production électronique est en anglais, que l'on...
Alors, il y a des conditions de terminologie qui travaillent là-dessus, quand même. Hein. Nous ne sommes pas, j'allais dire, nous ne sommes pas en... Dans tel pays, je ne vais pas en citer, mais dans tel pays, moins soucieux d'affirmer sa langue. Et tout de même, en France, il y a eu une réaction contre ça, et la terminologie et la néologie sont des aspects très importants. D'ailleurs, l'Académie française est à la tête d'une pyramide, avant la publication au journal officiel, d'élaboration par des commissions ministérielles de terminologie et une commission générale de terminologie animée par, dans le secrétariat, pardon, et fait par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Au ministère de la Culture.
Au ministère de la Culture. Cette commission de terminologie, ben, j'appartiens moi-même à une commission de terminologie des finances, à Bercy, qui est la plus grosse et la plus active des commissions de terminologie, en fait. Eh bien, ces commissions de terminologie font un travail remarquable pour qu'il existe sur le marché en France, même si ce travail est un peu lent.
Mais on ne voit pas la conclusion et la traduction dans le monde industriel.
Bien, et
si vous achetez du matériel IFI ou du matériel informatique, c'est quand même l'anglais.
Ben oui, parce que lorsque nous avons fait, c'est nos associations qui avaient fait la première mouture de la loi Toubon, mais lorsque la loi Toubon est parue, il y a eu un recours en conseil constitutionnel qui a été fait contre l'un des aspects de la loi Toubon que nous avions inscrit dedans et que le cabinet de Toubon, pourtant, malgré un édulcorage sérieux déjà, avait quand même laissé passer, c'est le fait que on pouvait imposer la terminologie par arrêté qui s'imposait à tout le monde. Là, on a fait sauter ça en disant, après tout, les gens ont le droit. Enfin, c'est le Conseil constitutionnel qui a été saisi, qui a fait une interprétation peut-être un peu large de la liberté d'expression. Un peu large, quand même. Beaucoup de juristes ont trouvé que c'était trop large. Et qui ont dit, mais après tout, non, vous ne pouvez pas imposer à des entreprises privées. Vous pouvez le faire pour vos administrations. Ça oui, vous êtes libre, vous, État, de le faire à vos administrations, mais vous ne pouvez pas imposer à des entreprises privées de choisir de s'exprimer selon les termes nouveaux fabriqués par vos commissions. S'ils le veulent faire autrement, ben, elles le font autrement, c'est tout. Alors évidemment, il y a un laxisme en la matière, vous ne pouvez pas l'imposer. Les listes existent, on peut s'y référer, elles sont largement distribuées, mais si les gens ne veulent pas les employer...
C'est sur la base du volontariat.
Voilà.
Donc, on sait ce que ça signifie en la matière. Quand même, Albert Salon, dans le domaine de la santé publique, il y a une obligation de traduction.
Ah ben, dans tout service public.
Non, mais de la santé en particulier. Dès lors que la santé est en jeu, par exemple, les notices de jouets pour enfants, vous êtes obligé de mettre une traduction.
Oui,
il y a une question de sécurité.
Oui, mais attention, une question de sécurité... Il faut que vous mettiez les modes d'emploi, les avertissements, etc., en raison du principe de précaution en matière alimentaire et en matière de santé. Ça, c'est la loi Toubon. Et c'est appliqué par...
Donc elle l'impose quand même. C'est imposé.
Oui, mais attendez, elle n'impose pas des mots. Elle impose qu'une traduction soit faite sans préciser la qualité de la traduction. C'est-à-dire que vous avez des jouets chinois, etc., qui arrivent avec une traduction faite par un chinois en Chine ou par la traduction automatique que l'on fait maintenant par ordinateur.
Alors, à laquelle parfois on ne comprend rien.
Mais voilà, objectivement, on peut dire, ah ben, il y a une traduction. Hein. Voilà, on vous livre une notice en 4, 5, 6 langues, 8 langues, si vous voulez, hein, dont le français, tiens, pourquoi pas. Et voilà, et débrouillez-vous avec ça.
Est-ce qu'à de se retourner dans ce cas-là. Est-ce que vous-même, association, vous pouvez dire, attendez, vous allez voir le fabricant, vous dites, la notice n'est pas correcte, je ne comprends pas, et j'engage une procédure.
Alors, nous ne pouvons pas engager la procédure, nous pouvons en référer à la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, la DGCCRF à Bercy, qui, elle, est habilitée à faire des constats. Nous ne sommes pas...
Non, oui, mais après, qu'est-ce qui se passe?
Nous pouvons faire
après
des constats, mais je veux dire à faire le procès.
Oui.
Alors, nous pouvons, nous porter partie civile si, effectivement, le ministère public déclenche une procédure.
Mais pour ça, il le faut.
Il faut que la
est-ce qu'il le fait CRF, premier point, est-ce qu'il le fait, le ministère public, dans la plupart des cas?
Il le fait, mais élimine beaucoup, beaucoup de choses. Élimine beaucoup de choses et...
Il y a des jouets qui sont retournés en Chine déjà pour cette raison?
Je ne peux pas vous citer de jouets retournés en Chine pour cette raison.
Ou d'autres choses, hein, d'autres produits.
Oui, non, si, il y a eu des procès faits et gagnés. Nous en gagnons, enfin, nous portons partie civile, nous aussi. Nous en gagnons quoi? 5 ou 6 par an. Mais... C'est important que ça existe, cette possibilité de faire des procès. Dans nos associations, quand nous découvrons quelque chose, et je fais appel d'ailleurs à tout le public qui peut m'entendre pour qu'il adhère à notre association Avenir de la langue française, 34 bis rue de Picpus dans le 12e à Paris.
Excusez-moi, vous avez raison, on est tous solidaires.
On est tous solidaires. Et d'autres associations ensemble font des constats, les transmettent donc aux officiers publics habilités à enclencher la procédure, mais... Nous commençons d'abord par dire aux gens en infraction, envoyer une lettre gentille, il y a 3 phases, une lettre très gentille en disant, écoutez, vous savez, vous avez fait ça, là, c'est pas bien du tout pour la langue française, nous défendons la langue française, est-ce que vous ne pourriez pas avoir la gentillesse de... Enfin, un peu dans ce style. On a des réponses, plus souvent qu'on ne le croit, positives. Bon, mais il y en a beaucoup qui sont négatives. Mais il y a à peu près la moitié de réponses assez positives.
Ah, quand même.
Oui, oui, oui. Et oui, elles sont très gentilles, nos lettres.
Vous êtes vraiment très gentil dans ce cas. Non, non, mais parce que ça
mais
veut dire
attendez,
qu'il y a une prise de conscience.
Alors, deuxième étape. Ou on n'a pas de réponse, ou on a une réponse, ou parfois les gens nous envoient carrément sur les roses, hein, pour parler vulgairement. On s'en fiche, la langue française, etc., c'est pas notre problème. Bien. Alors, à ce moment-là, nous envoyons une deuxième lettre. Disons, bah, écoutez, quand même, non, vraiment, c'est pas gentil, ça. Hein. Et, écoutez, nous faisons notre travail, d'ailleurs, nous faisons notre travail et nous donnons ces informations-là, nous constatons des infractions et nous envoyons ça aux gens qui sont habilités à vous faire des procès. Alors, au fond, réfléchissez, si vous voulez éviter un procès, voilà. Et troisième étape, nous disons donc à la...
C'est la mise en demeure.
C'est fait, voilà. C'est ouais. À ce moment-là, si dans les 2 mois, nous n'avons pas de réponse, nous transmettons ça. Et voilà, donc à chaque étape, il y a quand même du succès. Et puis finalement, les procès eux-mêmes, ils sont assez souvent gagnés. Malheureusement, la DGCCRF n'en fait pas beaucoup.
Alors, sur 100 lettres que vous envoyez...
Et puis,
donc...
il y a des tribunaux aussi, il faut ajouter en plus qu'il y a une autre déperdition, parce que des tribunaux, parfois, classent sans suite en disant, zut, encore un truc de leur langue française, ils nous enquiquinent, il y a parfois des juges comme ça. Hein. Voilà.
Alors, sur 100 lettres que vous envoyez, donc 50 à peu près, font l'objet d'une réponse positive. Que vous disent-ils, ces chefs d'entreprise?
Mais oui, écoutez, on n'a pas fait attention, mais on va le faire. Je saisis mon responsable de la publicité.
Changer le nom d'un
etc.
produit comme ça, quand une campagne de publicité est lancée?
S'il s'agit d'une marque, on ne peut pas changer.
Ben oui.
Non, il s'agit surtout des notices d'emploi, des avertissements quant aux dangers éventuels du produit, etc. Les marques, on ne peut pas les changer. Des appellations qui ne sont pas enregistrées comme marque déposée, on peut les changer. Et ça arrive qu'ils les changent. Mais les marques déposées, vous ne pouvez rien faire.
Donc c'est en amont là, qu'il faut traiter le sujet, mais là c'est une autre question. Hein,
oui,
pour faire en sorte que les marques déposées ne soient pas en anglais nécessairement. Albert Salon, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure avec Xavier Darcos qui, selon vous, impose le bilinguisme. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un principe de réalité qui fait que, bah oui, les jeunes Français ne parlent pas assez bien l'anglais à tort ou à raison, et que d'une façon ou d'une autre, pour qu'ils accèdent au marché du travail, il faut bien qu'ils se forment sur ce point. Et que là, on est face quand même à...
Deux réponses. Un,
une réalité.
Plus vous bilinguisez les gens partout, moins vous leur donnez de chances spécifiques de gagner par rapport à d'autres, parce que tout le monde, si on poursuit la logique, parlera l'anglais, comme tout le monde parle le français. Voilà. Enfin, tout le monde en France, de nationalité française, établie depuis un moment, parle le français. Bon, voilà. Ce serait pareil pour l'anglais. Quel avantage comparatif ça donne? Il faudra apprendre forcément une autre langue. Mais, et Agege le dit fort bien, Claude Agege, le célèbre linguiste...
Qui préside le comité de soutien contre le protocole de Londres.
Qui préside le comité de soutien. Monsieur Claude Agege dit ceci, il l'a dit dans un de ses bouquins, à la fin de Halte à la mort des langues, et puis dans son dernier bouquin qui est Combat pour le français. Claude Agege dit ceci, écoutez, d'abord, la meilleure langue, mais ça c'est ce que nous disions depuis longtemps, nous les associations, la meilleure langue du commerce extérieur, c'est la langue du client. C'est-à-dire, c'est l'allemand en Allemagne, c'est l'espagnol dans tous les pays hispanophones, c'est le chinois en Chine, c'est pas avec l'anglais que vous allez vraiment faire du commerce en Chine, c'est avec le chinois. Il va falloir que vous mettiez beaucoup de vos enfants, mesdames et messieurs, au chinois. Japonais encore un peu, mais le chinois. Ou des langues indiennes, quoique l'anglais soit beaucoup plus implanté en Inde qu'il ne l'est en Chine. Donc, la langue du client, c'est la meilleure langue pour l'exportation. D'autre part, il faut, si l'on fait une Europe, en ce qui concerne l'Europe, avec la diversité linguistique à la base, on a fait voter à l'UNESCO une convention en octobre 2005 qui a été enfin ratifiée. Seuls les États-Unis et Israël avaient voté contre cette convention UNESCO sur le respect de la diversité culturelle. On a fait voter ça.
Et pour quel motif? Pour quel motif ont-ils voté contre?
Parce que ça gêne naturellement leurs industries culturelles et notamment leur industrie cinématographique, les majors américaines.
Les États-Unis, oui, mais Israël.
Israël a voté pour faire plaisir aux États-Unis.
Il n'y a pas d'intérêt direct, je veux dire par là.
Israël a tant besoin des États-Unis qu'il lui fait plaisir au maximum.
Bien. Donc ça, c'était à l'UNESCO en 2005.
C'était à l'UNESCO en 2005. Bien, et ça a été ratifié finalement depuis lors, alors que les États-Unis ont tout fait pour empêcher aussi les ratifications en signant des accords bilatéraux avec les États qui pourtant avaient soit dans le sommet francophone de Beyrouth de 2002 ou ensuite, soit dans la convention pour l'UNESCO elle-même, avaient signé en faveur de cette diversité culturelle, mais ils ont été obligés parce que s'ils voulaient avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis, il fallait accepter toutes les clauses de ces accords de libre-échange, c'est le cas du Maroc, du Cambodge, et dans ces clauses de libre-échange, ils avaient la libéralisation de leur marché culturel, de leurs industries culturelles. Voilà.
Donc alors, on voit bien une stratégie qui
mais naturellement, mais nous
concertée.
Avons, pardon, mais nous sommes face à une stratégie d'empire.
Albert Salon, on reste sur ce mot d'empire que vous avez déjà prononcé d'ailleurs. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Albert Salon est avec nous pour cet éclairage. Au départ, nous sommes partis du protocole de Londres sur les brevets qui est en voie de ratification, mais gardons un point d'interrogation puisque c'est discuté en ce moment par les parlementaires. Le protocole de Londres, dont il faut rappeler qu'il s'agit de
d'économiser sur les traductions,
voilà,
théoriquement.
D'économiser théoriquement sur les traductions, mais vous nous avez montré que c'est un argument largement exagéré et que le but, c'est de tout simplement n'autoriser plus que trois langues pour les brevets, l'allemand, l'anglais et le français. Et dans les faits, on sait bien que c'est l'anglais qui sera choisi dans 99,9% des cas. Ça concerne donc les brevets. Donc, vous l'avez dit aussi, Albert Salon, l'innovation, la modernité et l'enjeu très important derrière cela, c'est bien sûr, est-ce que la langue française va continuer à désigner cette innovation, cette modernité, ou bien sera-t-elle ravalée au rang de langue vernaculaire, de dialecte, face à un anglais omniprésent? Est-ce que, Albert Salon, on n'exagère pas non plus, je dirais précisément, cette omniprésence de l'anglais? Est-ce que ce n'est pas une forme de globiche qui, somme toute, se retourne contre l'anglais lui-même? Est-ce que les Anglais n'auraient pas intérêt à se joindre aussi à votre action? Et le font-ils, d'ailleurs?
Alors, les Anglais, regrette un petit peu que le globish soit ce qu'il est, hein, c'est-à-dire cette langue peu riche, avec peu de mots, etc., que tout le monde emploie, parle mal, prononce mal souvent. D'ailleurs, on a de plus en plus de difficultés à se comprendre. Vous savez, quand vous entendez du japonais qui parle des espagnols en globish, c'est amusant. Enfin, vous me direz, il n'y en a pas d'autres langues pour le moment. Il pourrait y avoir une langue artificielle.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien, justement.
Mais
l'espéranto, c'est pas l'espéranto.
C'est ça le gros problème. Bon, on peut comprendre que ça soit utile. Il faut comprendre que dans certaines situations, c'est utile, etc. Bon, que l'on se plaigne de cette pauvreté, etc. Il faut faire attention parce que les gens vous disent, vous savez, c'est pas grave, ça pourrait être une langue artificielle, c'est le globish, c'est pas grave. Mais il faut savoir, que cela favorise à hauteur de 17 milliards d'euros, ça a été calculé à peu près, je ne sais pas si ces estimations sont exactes, mais en tout cas ce sont réellement des milliards d'euros qui sont en cause, qui bénéficient aux pays, et notamment à l'Angleterre en ce qui concerne l'Europe, pour faire apprendre l'anglais à des étrangers qui viennent chez eux. C'est une mine, une ressource financière extraordinaire. Bon, premier point. Mais c'est l'anglais que l'on apprend. On ne vient pas apprendre le globish. Alors, deuxième aspect, effectivement, de la chose, c'est que le globish conduit quand même à l'anglais. Si on veut aller un petit peu au-delà de la communication de base, si vous voulez, de la communication, et beaucoup de gens y vont, c'est naturellement à l'anglais sur l'anglais que l'on débouche. C'est comme quand on vous parle du créole à l'île Maurice ou en Haïti, etc. Dès que l'on veut sortir du créole à base de français et dire quelque chose d'un peu élaboré, eh ben on passe au français, naturellement. Le globish, c'est ça. Et c'est un créole répandu mondialement. Bon. Et qui fait passer à l'anglais et qui assure donc aux puissances qui sont anglo-saxonnes un avantage considérable dans les sciences. Dans les sciences, c'est parfois extrêmement pénible de voir des gens qui pourtant ont bien appris l'anglais, pas simplement le globish, bien appris l'anglais, mais qui sont en situation d'infériorité dans un congrès, dans un colloque, face à leurs collègues américains ou australiens ou néo-zélandais, alors qu'ils sont extrêmement compétents, qu'on les a invités pour leur haute compétence, qui sont en infériorité parce que dans la discussion, ils n'ont pas la vivacité nécessaire. Voilà. Alors, vous me direz, on peut répondre à ça en disant, justement, passons tous vraiment à l'anglais, sortons du globish et vous verrez, il n'y aura plus d'infériorité de nos scientifiques. Mais quand même, en mettant en balance tout ce que l'on abandonne pour arriver à cela, non seulement dans la phase de transition, mais ensuite, parce que la pensée se structure à partir d'une langue. Et dans la mesure où vous êtes habitué, alors non plus simplement à utiliser, à traduire dans une langue qui est l'anglais pour écrire vos articles ou traduire lors d'un colloque ce que vous pensez, ce qui dans votre tête se passe en français, dans la mesure où vous arrivez à penser en anglais, alors à ce moment-là, vous pensez anglais, vous pensez américain. Vous pensez selon des schémas de pensée portés par la langue anglo-américaine. C'est bien évident. Et vous perdez la possibilité, à partir de votre langue, dans le travail de vos neurones, de vos synapses et des associations d'idées qu'elles peuvent produire, vous perdez la capacité d'inventer autre chose. Donc c'est un modèle qui s'impose à vous en même temps que la langue. Très important, ça.
Capital. C'est ce que vous avez dit en parlant de stratégie d'empire.
Oui, la stratégie d'empire, elle est là, évidemment. Il faut savoir. Il ne faut pas faire une obsession anti-américaine. Moi, je connais bien les États-Unis. Je parle d'ailleurs très bien anglais, presque aussi bien que l'allemand. J'ai vécu beaucoup en pays anglophone. Je faisais mes conférences en anglais, évidemment. Bon, j'ai pas de problème là-dessus. Je parle aussi d'autres langues, d'ailleurs. Mais je parle surtout l'allemand. Eh bien, il faut savoir que c'est un avantage considérable. Donc, ils en sont conscients, les Américains comme les Anglais. Il faut pas faire donc d'anti-américanisme primaire. Ça n'est pas mon cas, mais anti-hégémonisme. Ils se servent de cela pour une hégémonie. Il faut le savoir. C'est une stratégie d'empire. Il faut savoir qu'au Département d'État et à la CIA, il y a des rapports annuels qui sont faits et qui sont publiés pour certains d'entre eux, ou le British Council en Angleterre. Le British Council, très actif d'ailleurs à Bruxelles, pour faire en sorte que l'anglais soit la langue
commune. On va parler de l'Europe d'ailleurs.
Oui, commune de l'Union européenne. Bon, eh bien, ils font des rapports à leur gouvernement annuel en disant, on a encore marqué telle et telle position, l'anglo-américain progresse, notre langue progresse.
Donc ils suivent leur langue à la trace.
Ils la suivent à la trace. C'est pas simplement un rayonnement spontané que l'on peut comprendre, c'est en même temps un rayonnement organisé, soutenu par des sommes colossales, d'une part par des universités et des fondations américaines ou autres, mais aussi par le gouvernement américain. Nous le faisons aussi, nous avons aussi une stratégie culturelle, mais alors tellement inférieure et tellement artisanale.
C'est ça. La francophonie engloutit quand même des sommes considérables, des sommets prestigieux qui servent bien souvent de décor à la diplomatie française en Afrique, notamment, ou du moins par le passé, c'était un peu le cas. La francophonie vante le dialogue des cultures, le dialogue nord-sud, cette autre voie face à l'hégémonisme américain. Quid du résultat ?
Alors, d'abord, je vous arrête en ce qui concerne les sommes fantastiques. La France dépense encore quelque argent pour son action culturelle et d'aide au développement bilatérale. Mais quand on parle de francophonie, on parle de construction multilatérale, notamment dans le cadre de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le siège est à Paris, rue de Bourgogne, avec des bureaux au 13 quai André Citroën.
C'est Abdou Diouf.
Abdou Diouf, le secrétaire général, ancien président de la République du Sénégal, qui a eu un premier mandat renouvelé au dernier sommet francophone en 2006. Sommet de Bucarest, renouvelé pour 4 ans. Bien. Alors, vous dites, la francophonie, donc, en tant qu'organisme multilatéral, ça coûte à la France des sommes fantastiques. Alors, certes, la
Ou
France...
Même en soi, je ne parlais pas de la France. En soi, ça représente quand même une structure.
J'y viens. La France paye à peu près les 2/3 du fonctionnement de cette francophonie multilatérale. Le reste, c'est quelques autres bailleurs de fonds, Canada, Suisse, Belgique, Royaume de Belgique et un tout petit peu la communauté française de Belgique. Au Canada, c'est essentiellement le Canada fédéral parce que c'est lui qui a les crédits internationaux. Un tout petit peu le Québec par quelques voies qui sont permises à ce qui reste une province. La Suisse contribue un petit peu au titre de sa communauté francophone. Voilà, et puis tout le monde est censé contribuer, mais naturellement les autres contributions sont très faibles. Mais alors, ce coût total de la francophonie, tout bailleur de fonds confondu, et donc toutes applications confondues, que ce soit pour l'Agence intergouvernementale de la francophonie, que ce soit pour le secrétariat général d'Abdou Diouf dont je parlais, que ce soit pour TV5. TV5 est un des points importants, d'ailleurs un des beaux succès, malgré de très faibles moyens, de la francophonie multilatérale. Que ce soit encore l'Agence universitaire de la francophonie qui réunit bon nombre, qui réunit toutes les universités francophones du monde et les fait travailler ensemble. Bon, que ce soit même le Forum francophone des affaires, que ce soit l'Association internationale des maires francophones, l'IMF. Bon, que ce soit tous ces organismes, vous savez combien tout ça représente d'argent ? 300 millions d'euros. C'est négligeable. Bon, alors vous dites les sommets là-dedans, il y a des vitrines, etc., dispendieuses, il y a des chefs d'État qui se déplacent. Ben oui, mais enfin, il faut aussi qu'ils puissent se déplacer, c'est tous les deux ans, hein, pour tenir leurs réunions et prendre leurs décisions. Le Commonwealth aussi. On n'en parle pas, mais le Commonwealth, qui réunit à peu près le même nombre de participants que la francophonie, eh bien, encore que ce soit, et c'est là une différence importante, donc il se réunit aussi, mais au niveau des chefs d'État, des ministres, tout ce que vous voudrez, des commissions diverses, là aussi, il faut bien fonctionner quand même quand on fait une organisation internationale. L'ONU, alors, l'UNESCO, pareil. Mais le Commonwealth, justement, ne réunit... À la différence de la francophonie, c'est un peu comme l'hispanophonie ou la lusophonie. Lusophonie, les Portugais. Mm-hmm. La CPLP, la communauté des pays de langue portugaise. CPLP. C'est, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit le Portugal, ils ne réunissent autour d'eux que de leurs anciennes colonies. Alors que la francophonie ne réunit pas que d'anciennes colonies de la France. Loin de là, c'est seulement la moitié. Vous avez des pays de l'Europe de l'Est, vous avez des pays de
et
divers
force,
endroits qui n'ont jamais été... Mais oui, justement, et on y vient au dialogue des cultures dont vous parliez tout à l'heure. On y vient dans un instant. La force de ça, c'est aussi cette diversité de pays membres de la francophonie ou observateurs, il y en a 68 au total, et la moitié seulement sont des pays administrés d'une façon ou d'une autre, hein, comme le Québec ou la Suisse, donc je les mets dans les anciennes colonies, non, mais dans les pays qui ont été d'une façon ou d'une autre administrés par la République ou par le Royaume de France à un moment de son histoire, quand on enlève tous ces pays-là, donc y compris le Québec, hein, quand on les enlève tous, il reste la moitié qui n'ont jamais été. Hein. C'est la Pologne, c'est la Slovénie, c'est l'Albanie même qui fait partie de la francophonie, c'est la Hongrie, c'est la Roumanie bien sûr, c'est la Bulgarie.
Mais
c'est...
leur intérêt est davantage stratégique pour... Faire oui. pendant aux États-Unis.
Oui. Les raisons pour lesquelles ils sont entrés en francophonie.
C'est moins pour l'amour du français que pour
oui.
leur indépendance propre.
Leur indépendance propre, leur affirmation sur la scène internationale, le contrepoids à l'Empire et à d'autres empires. Pour certains d'entre eux, c'était le contrepoids aussi à l'URSS, à l'ancienne URSS,
bien sûr.
La communauté des États.
Le français était d'ailleurs très répandu dans les pays de l'Est avant la chute du rideau de fer.
Les moins. Bon, hélas, mais c'était aussi, par exemple, pour le Vietnam, quand il est entré en francophonie, après avoir chassé la puissance coloniale française, il a demandé à entrer en francophonie, non pas pour faire plaisir à l'ancienne puissance coloniale, mais parce que ça lui permettait de s'affirmer face à qui, sur la scène internationale, mais face à qui ? À la Chine. Quelques années auparavant, en 1979, il y avait eu une guerre encore entre la Chine et le Vietnam, face à la Russie, face aux États-Unis, naturellement. Bon, alors, évidemment, il y a eu tout ça. Mais encore une fois, vous avez la moitié des pays membres de la francophonie qui n'ont jamais été administrés d'une façon ou d'une autre par la France. Bien, ça veut dire que pour le dialogue des cultures que nous prônons, que tous les gens veulent, qui sont l'anti-Huntington, l'anti-choc des civilisations, hein, l'anti-clash of civilizations, eh bien, plutôt prôné presque par Huntington, plutôt que cité comme une probabilité. Quand on lit son bouquin, c'est comme s'il le souhaitait, ce choc des civilisations. Et comme si d'aucuns, dans la politique internationale actuelle, le souhaitaient aussi. Vous faisiez quelque chose pour.
C'est le cas.
Bon, c'est vous qui le dites. Je me suis juré de ne pas faire de politique là, mais j'en ai fait quand même un petit peu.
La réserve donc, de l'ambassadeur.
Donc, le dialogue des cultures, il est facilité par ça. Nous avons, comme au Commonwealth, nous avons des Africains, nous avons des gens de divers continents. Le Commonwealth n'a pas l'orthodoxie. Huntington cite parmi ses grandes civilisations l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est-à-dire les civilisations fondées sur la religion orthodoxe. Nous l'avons en francophonie. Nous avons l'orthodoxie en francophonie. Donc nous avons toutes les cultures, tous les continents, toutes les civilisations importantes, si vous voulez, dans la francophonie, avec là un réceptacle extraordinaire et une volonté en plus, parce que la francophonie n'a pas été fondée, comme le dit le Commonwealth, sur la richesse matérielle ou sur les intérêts économiques, mais sur précisément la langue, la culture en partage, en allant aussi au-delà et vers l'économie. Mais fondée d'abord là-dessus, sur un esprit, sur une attitude humaniste et civilisationnelle.
Alors c'est ça.
Vous avez un réceptacle extraordinaire. Et la France ne s'en soucie pas assez de cela. On le dit dans les discours, on l'a entendu encore dans les discours récemment, il y a quelques mois, mais les réalités...
Mais la francophonie, Albert Salon, et ce sera notre dernier point avant de nous quitter, la francophonie, c'est de l'ordre, justement, vous l'avez dit, de l'esprit, de la culture.
Pas seulement, hein.
Ouais. Mais on a le sentiment que le Commonwealth, c'est le commerce, c'est l'efficacité, c'est le portefeuille.
Il a été fondé pour ça, oui. Oui.
C'est ce qui manque à la francophonie aussi un peu ?
Non, justement, il y a de plus en plus maintenant, et le tournant a été pris d'ailleurs lors d'un sommet d'Hanoï, en 97. Déjà, il y avait des velléités, même des actions pour faire une francophonie aussi économique. D'ailleurs, on la faisait aussi sous le plan de l'aide au développement, de la coopération pour le développement, parce que la coopération pour le développement a évidemment des aspects économiques. Donc c'était déjà une façon d'arriver à l'économie et au commerce. Bon, mais au moment du sommet de Hanoï en 1997, le 14 novembre 1997 à Hanoï, eh bien, les Vietnamiens, j'y étais à ce sommet comme à beaucoup de sommets, je connais bien, les Vietnamiens avaient mis tous les efforts de leur diplomatie, d'ailleurs remarquable, pour faire avancer la francophonie multilatérale à l'occasion de ce sommet-là. C'est d'ailleurs là qu'a été élu Boutros-Rali, le premier secrétaire général de la francophonie, ancien secrétaire général de l'ONU. À Hanoï, ils ont voulu donner un caractère fortement économique à la communauté francophone, pour vendre leur riz en Afrique sans doute, pour etc. Mais peu importe, c'est ça aussi une communauté. C'est où une communauté, c'est un espace où des gens peuvent avoir leur intérêt, pas seulement spirituel, intellectuel, linguistique et tout ce ou culturel, enfin littéraire, etc. Mais économique, mais d'aide au développement, naturellement, c'est logique et c'est normal. Eh bien, le tournant a été pris à ce moment-là insuffisamment, notamment avec un certain scepticisme de la France. Et un obstacle de taille, parce que la France ou d'autres pays, notamment développés de la francophonie, ne sont pas nombreux d'ailleurs les pays développés dans la francophonie, appartiennent à des ensembles continentaux, économico-politiques. Le Canada, dont le Québec, appartient à l'ALENA, Organisation de libre-échange de l'Amérique du Nord. Et puis nous appartenons, pour le meilleur et pour le pire...
À l'Union européenne.
À l'Union européenne.
On aura l'occasion
qui,
de revenir.
Qui voit d'un très mauvais œil le fait que l'on ait des préférences communautaires possibles à l'intérieur d'un espace géoculturel et géolinguistique comme la francophonie, ou comme pour le Portugal, de la CPLP, l'Espagne, de l'hispanophonie. L'Europe-Bruxelles, les européistes de Bruxelles voient ça d'un très mauvais œil.
Donc là, je dirais, il y a deux obstacles. Ce sera notre dernier point, si vous le voulez bien. Il y a à la fois donc, l'Union européenne qui voit ça d'un mauvais œil et en même temps l'État français qui n'aime pas trop les diplomaties parallèles, les jeux parallèles. L'État français ne fait pas grand-chose pour favoriser une diplomatie de la francophonie.
Mais il le dit, et il paye d'ailleurs en partie pour ça, je vous l'ai quand même dit tout à l'heure, il paye les deux tiers de la francophonie multilatérale, et il affirme en tout cas périodiquement, partout, sur toutes les scènes possibles, que la francophonie est importante et une priorité. On l'a même entendu, encore une fois, dans la campagne présidentielle, très vigoureusement dit, c'était Guénaud qui avait rédigé ça, et Gallo, il n'y a pas longtemps donc. Mais effectivement, vous avez raison. Non seulement les gouvernements de droite, mais les gouvernements de gauche, c'était pareil, n'ont pas donné assez d'importance à ça, alors qu'il est là un atout considérable pour l'humanité, pas seulement pour l'humanité, je ne parle pas seulement d'un point de vue égoïste français, mais pour l'humanité, une chance du dialogue des cultures, de contre-épreuve, de contrepoids, de contre-modèle à la Huntington et à l'Empire. Bon, et puis, pour la France, c'est quand même éminemment intéressant. Encore faut-il croire en la pérennité de la France.
Merci beaucoup Albert Salon. Et là, vous avez souligné tous les atouts de la francophonie. Je rappelle que vous êtes président du Forum francophone international, le FFI. et que vous occupez également d'avenir de la langue française, dont vous êtes le président et vous êtes ancien ambassadeur. Merci d'être venu pour cet éclairage qui nous a emmené du protocole de Londres jusqu'à tous les enjeux de la francophonie. Mais comme vous l'avez si bien dit aussi, tout se tient dans cette histoire.
Tout
à bientôt.
Se tient.